Hello, bienvenue dans le Clo-Clo Club. Cette semaine, pas nouvel épisode. Par contre, je vous laisse avec la rediffusion d'un épisode qu'on a enregistré il y a un peu plus d'un an maintenant avec mon amie Lucille. C'est vraiment un de mes épisodes préférés du podcast et j'espère qu'il vous plaira si vous ne l'avez pas déjà écouté. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Instagram, Threads et TikTok. J'y partage pas mal de contenu annexe au podcast, ça vaut le détour. Sur ce, je vous retrouve vraiment la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, je vous laisse avec la Chloé du passé. Bonne écoute.
Tu sais que la première fois que j'ai entendu te parler de toi, on m'a dit qu'on allait vraiment bien s'entendre parce que t'adores l'art, les nouvelles technologies, mais surtout de parler de sexualité. Est-ce que du coup tu peux compléter peut-être cette présentation pour les auditeurices ?
Mais déjà, trop bien cette présentation, j'adore. C'est clair, ça me touche. Genre, et en trois mots, ça résume à peu près les trois piliers de ma vie, tu vois. Genre, c'est vrai, c'est art, technologie et sexualité. Et si je pouvais tout mélanger ensemble, ce serait nickel, tu vois. Genre des orgies avec des sextoys connectés au milieu d'une expo d'art contemporain.
Au Brésil.
Au Brésil. On a oublié le Brésil, ouais, c'est clair. Franchement, t'as tout dit, hein. À part dire que je suis designer, des trucs, mais c'est pas... Non, vas-y.
Une femme pleine de talent, en vrai. Écoute, je sors la pochette magique dans laquelle il y a des citations qui parlent de femmes, que ce soit positivement ou négativement. C'est des citations qui viennent, tu vois, aussi bien d'essais féministes que de cinéma. Enfin, vraiment, c'est de la pop culture au global qui parle des femmes. Tu vas piocher un petit papier au hasard, le lire... et me dire à quoi ça te fait penser.
Ok, alors... Ah, la chose la plus sexy au monde, c'est une femme qui a confiance en elle, Beyoncé.
Allez.
Ok. Ça me fait penser que, en soi, je trouve que c'est vrai, mais que c'est super dur d'avoir confiance en soi.
Non, mais... Tu dirais que t'as confiance en toi, toi ?
Ah non, trop pas. Justement, c'est un problème. Mais moi, je milite pour la reconnaissance de l'humilité. Et la reconnaissance de la... Enfin, pas de la discrétion, mais... je veux pas opposer humilité et confiance en soi. Mais du coup, je milite pour socialement qu'on puisse faire preuve d'humilité et que ce soit quelque chose qui soit un peu plus valorisé. Plus que être dans le show-off et se mettre hyper en avant et décupler une apparente confiance en soi qui peut en fait vouloir dire un cruel manque de confiance finalement. Mais sinon, au niveau des femmes, je suis super d'accord avec ça et je trouve juste que socialement, eh ben, c'est pas un truc qu'on apprend et c'est pas un truc qu'on nous encourage à faire.
C'est ce que j'allais dire. En plus de ça, c'est drôle que tu trouves qu'on manque de reconnaissance envers l'humilité, alors qu'en France, je trouve que justement les gens qui font du show-off, comme tu dis, c'est mal vu et que justement on préfère les gens humbles. Plus tu réussis, plus tu te tais, en gros. Parce que sinon c'est mal vu, c'est critiqué. Et que c'est plus un modèle à l'américaine, l'inverse, tu vois, la confiance en soi ultra valorisée et d'en faire des tonnes, même trop des fois. Et qu'il y a une balance à trouver effectivement entre les deux.
Ouais, mais parce que c'est un truc qui me travaille un peu en ce moment. Et justement, plus... je vais parler un peu du milieu pro vite fait, mais... Je sais que moi, on m'a toujours fait la remarque que je suis quelqu'un qui fait pas mal de trucs, je fais plein de projets.
Ouais, t'es hyper polyvalente.
Oui, c'est ça, je suis polyvalente. Ouais. J'ai fait pas mal de projets avant, des sextech. je suis allée au Brésil et j'ai appris le portugais vite fait, en trois mois, en freestyle, et j'ai fait encore plein de choses. Et c'est pas du tout un truc dont, dans une conversation, je vais avoir envie de me vanter des premières minutes. J'aime bien avoir une conversation où on commence à me connaître, où on, petit à petit, et là, tu dévoiles des parts de ta personnalité, de tes talents. Et je remarque un peu que dans certains milieux professionnels, on te demande quand même de savoir te placer subtilement, de savoir toujours briller, de montrer que t'es capable de faire énormément de choses et qu'il faut que ça soit dévoilé dans les premières minutes parce que les gens n'ont pas tant de temps que ça à t'accorder. Ouais. Donc en fait, il faut savoir un peu te vendre et pour savoir te vendre, il faut montrer cette apparente confiance en soi à la française parce que si tu le fais à l'américaine, par contre, ça va pas fonctionner. Mais vraiment sur l'aspect confiance. En fait, c'est un truc qui m'a un peu énervée aussi récemment. Ce truc de dire, mais allez, il faut se libérer des carcans, faut que t'aies confiance en toi, là, vas-y, vas-y plus, sois plus offensive, là, parle-nous. Et t'es là, ok. Et je pense que c'est pas pour nous victimiser, nous les femmes et tout ça, mais il y a quand même une construction sociale depuis la crèche qui est juste incrémenté dans notre esprit, dans notre cerveau, et on a beau faire des années de thérapie, on a beau lire plein d'auteurs féministes, on a beau vraiment se motiver et se dire « ouais, ok, c'est bon ». Il y a plein de situations où c'est comme si le naturel revenait au galop, et plein de situations où on va se sentir coupable, où on va se mettre en retrait naturellement, où on va se dire que c'est de notre faute, et c'est trop facile du coup de... Putain, je me perds.
Ouais, de juger comme ça. Ouais. Tu penses quoi du modèle de la girl boss du coup? Parce que là, ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment cette injonction à avoir confiance en soi. En fait, on remplace une injonction par une autre, et c'est jamais une bonne chose, en vrai.
Exactement.
Ni évident. Mais je trouve que c'est pas mal véhiculé par cette figure de la girl boss. Toi, t'en penses quoi?
Cette figure de la girl boss, je la trouve à double tranchant, et ça dépend de quelle girl boss on parle. Mm-hmm. Je pense qu'il faut trouver une figure alternative de la girl boss. C'est que la girl boss qui prend exactement les mêmes... en fait, qui va être en compétition avec les mêmes critères masculins. Je trouve ça hyper négatif. Enfin, pour elle, pour toutes les femmes, pour le genre féminin. Et en fait, je trouve que c'est... comment dire ? Ce serait essayer de jouer avec une boîte à outils qu'on n'a pas. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais genre un peu...
Enfin, c'est quand même calquer un modèle sur un modèle déjà existant qui est pas ouf.
Qui est pas ouf du tout, qui est totalement aliénant, et qui amène à des situations de... je sais pas si j'ai envie d'aller congeler mes ovaires pour avoir des enfants à 45 ans.
Parce que...
Pardon, mes ovaires, J'avoue l'enfer.
Les ovaires, c'est un peu radical. Les ovocytes, c'est bien déjà.
Ouais, on est petit là-dessus.
Oui, totalement.
Voilà, je sais pas si j'ai envie de congeler mes ovocytes.
Non, mais là-dessus, c'est très révélateur en vrai. Des injonctions qui sont aussi liées à ça, quoi.
Et ouais, et il y a un côté chez cette girl boss qui est de à la fois vouloir être en compétition avec les hommes, mais du coup d'écraser les autres femmes comme un rouleau compresseur, sans aucune sororité et sans aucun... Et c'est ça que je trouve hyper dérangeant, en fait. Alors que on voit ce qui fonctionne pas dans ce système-là, on voit très bien les limites, et on pourrait totalement trouver un chemin alternatif avec plus de solidarité, plus de sororité, et puis se faire un peu moins souffrir, quoi. Enfin... C'est hyper bisounours, mais c'est un peu ça. Du coup, la girl boss, moi, je trouve que c'est bien si c'est une girl boss qui arrive à jongler avec toutes les injonctions de la vie, toutes les problématiques, les gamins et tout ça, et surtout qui a un ou une partenaire qui partage les tâches à égalité et qui la soutient comme il faut, quoi.
Et tu penses que ton manque de confiance en toi actuel, il vient, t'as cité la crèche tout à l'heure.
Ah.
Il vient de plutôt de la société globale, tu vois, c'est plutôt lié à l'école, ta famille.
C'est une très bonne question, je me suis jamais posé cette question-là en fait. dans mon plus lointain souvenir, j'ai toujours été, j'ai une forme de timidité, mais enfin pas chelou, mais je me suis toujours forcée à aller parler aux gens, même si je suis grave sociable. Mais du coup, ce manque de confiance, je l'ai lié un peu à ça, peur de se prendre une porte, un truc. Mais franchement, pour moi, il est là depuis ma naissance, quoi. Dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, c'est un peu un mélange de tout. Je pense le modèle des parents, déjà. Ma mère a pas du tout confiance en elle, alors après je sais pas si elle m'a légué ça. J'ai un père qui a surconfiance en lui par contre, donc...
C'est marrant qu'il reproduise du coup les schémas dont tu parles depuis tout à l'heure.
Ouais, c'est drôle, hein. Genre, du coup, c'est peut-être plutôt lié à la société. Non mais oui, ma famille, je trouve qu'elle reflète vraiment le côté... famille nucléaire, le père qui gagne plus que la mère, qui est l'entrepreneur, qui gère vraiment tout le côté économique du foyer, et du coup la femme qui va s'occuper des enfants super bien, qui va être hyper présente, qui va arrêter sa carrière et son travail pour se dédier complètement à sa famille, et qui va payer les tâches du quotidien avec ce qu'elle gagne en salaire ou en retraite. Enfin, ma mère avait une retraite anticipée, mais...
Okay.
En fait, c'est un peu le cliché, je trouve, des années 90, ce couple-là. Et qui est une construction sociale hyper révélatrice de ce moment-là. Qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Enfin, clairement...
Mais sinon, ça se saurait. On ferait pas ce podcast. Voilà.
C'est ça. Et du coup, absolument pas égalitaire dans le couple.
Comment tu t'es déconstruite par rapport à ça, justement, à ce modèle-là, à la maison? Si, alors... tu t'es déconstruite. En vrai, je pars de ce principe-là parce qu'on se connaît, mais ça se trouve, tu vas me dire pas du tout.
Si, si, je me suis grave déconstruite, en vrai. Même cas, ouais, moi, je suis trop une meuf déconstruite, en fait. Mais comment je me suis déconstruite ça? Mais en fait, c'est ouf, ça s'est fait un peu naturellement, je pense. Mais j'allais dire un truc, ça s'est fait par la créativité. Non, mais je sais pas comment dire ça, en fait, mais... le fait de toujours avoir une pratique artistique... Enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais en classe horaire aménagée et je faisais de la musique. Donc tous les après-midi, okay. J'étais au conservatoire. J'étais toujours dans un milieu hyper créatif. J'ai continué sur de l'art plastique assez intense. Mes études supérieures, c'était de l'art plastique, c'était des arts appliqués. Donc dans un milieu toujours hyper créatif, principalement de gauche aussi, bobo de gauche, on va dire c'est comme ça, à Paris. Donc forcément, tu rencontres des gens qui eux aussi sont très créatifs, ont l'esprit hyper ouvert, t'emmènent vers certaines lectures, certaines idées, certains modes de vie, te montrent qu'il y a des modèles alternatifs.
Ouais.
Et ça s'intensifie de plus en plus, et je pense que j'avais déjà des envies au collège, lycée, mais je restais dans ma petite ville provinciale, comme on dirait, avec des modèles assez classiques, et à partir du moment où j'ai bougé avec des études plus créatives et plein de rencontres, et c'est surtout plein de modèles différents, bah là ça a évolué. Mais ça a mis un peu de temps, je pense, quand même. Hein. Et une thérapie, quand même. Psychothérapie, on n'en parle pas assez. C'est quand même assez important, parce qu'il faut régler des trucs. Une thérapie qui a pu accélérer quand même pas mal de choses, parce que je pense qu'il y a la déconstruction de l'extérieur, enfin, un peu sociale, où on va faire quelques lectures, on va découvrir tel auteur, et on se rend compte qu'elle est féministe, on relit Virginie Despentes 10 ans plus tard, et on se dit « Ah, ok, d'accord. »
C'est donc ça.
« Ah, là, je comprends. » Non, mais... Et on se rend compte, en fait, les choses ne résonnent pas de la même manière. Et puis surtout... Bah moi je suis hétéro, tu vois, donc on rencontre des mecs. Enfin, en tout cas, on a des expériences amoureuses, des trucs comme ça. Et puis ça fait un peu... par moment, quand tu vis des trucs que t'as déjà cru voir avant, t'as des petits flashbacks.
T'as des constructions internes qui n'est pas faite et t'as des vieux réflexes qui viennent, en fait.
Exactement. Ouais. En fait, c'est un peu ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, doucement. Du coup, tu commences par la
tu
culture.
Tu commences large et tu resserres vers toi, petit à petit.
Exactement.
Ah ouais, clairement.
Mais c'est ouf parce qu'au début, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la déconstruction pour moi, elle est d'abord passée par la culture et après, les relations sociales, sentimentales, internes, pour finir sur l'intime dans la salle d'un psy, quoi.
T'as eu des rencontres marquantes, du coup, qui t'ont, en tout cas, aidé dans cette déconstruction ?
Ce dont je me rappelle le plus et qui me marque le plus, c'est mes dernières années d'études, plutôt vers mon master, et notamment la création du Sex Tech Lab.
J'allais t'en parler, parce que t'as glissé ça au tout début, ni vu ni connu, mais c'était dans mes sujets à aborder avec toi.
Ouais, mais ça a carrément aidé...
C'est quoi un Sex Tech Lab ?
Plusieurs années après, un Sex Tech Lab, c'est un laboratoire... Enfin, on l'a pensé comme un lab de réflexion sur les technologies liées aux sexualités, sexualité plurielle. Et dans sexualité, tu peux tout faire rentrer sans mauvais jeu de mots. tu peux parler d'éducation sexuelle, tu peux parler de pornographie, mais tu peux aussi parler de rencontres amoureuses. C'est sexualité au sens large. Tu peux parler de
érotisme,
de transidentité aussi, de handicap et sexualité, de non-binarisme.
En gros, la sexualité dans toutes ses formes d'expression au sein de la société, quoi.
Exactement. C'est tout à fait... Tu l'as super bien défini. Je devrais t'embaucher pour la com du truc. Mais oui, c'est que c'est clair. Et attends, en fait, on va repartir un peu avant ça dans la déconstruction.
Ouais.
Bah du coup, en fait, je pense que la déconstruction, pour moi, elle commence à partir du moment où j'ai utilisé des applis de rencontre. Parce que tout est lié à ça, et après on arrive au Sex Tech Lab, hein. Mais
okay,
on
va marrant, ouais.
On va repasser, ah je me rappelle de trucs, c'est ouf, tu viens de m'ouvrir une porte dans mon cerveau sur des souvenirs enfouis.
Tu l'as payé combien ta psy?
Ouais, j'avoue, je n'ai jamais parlé de ce truc-là. Moi, c'est quand même une bonne anecdote. La première fois que j'ai été sur un site de rencontre, j'avais 16 ans. Et on partait.
C'est hyper jeune.
Ouais, c'est hyper jeune. Ouais. Mais...
Enfin, je trouve. Aujourd'hui, non, plus maintenant.
Bon, en fait, on était au lycée avec ma meilleure pote, hyper fusionnelle, une amie super fusionnelle. Et on s'est créé un compte pour nous deux. Un compte pour nous deux où on mettait pas de photos et on s'appelait Lou. Et parce que c'était un peu une honte d'être sur une appli de rencontre et tout. Et à ce moment-là, on était en première, je crois.
C'était quoi comme appli ?
C'était Adopte un mec. Et on était à Douai, donc c'était pas la folie pour rencontrer des gens là-bas, hormis le lycée. Il y a pas de boîte de nuit, il y a un bar qui ferme à minuit, il y a que des gros pochetrons là-bas. Et du coup, aussi, on était... en fait, on avait un corps hyper formé, hyper vite et tout. On avait, les gens pensaient qu'on avait 20 ans et on en avait 15 ou 16. Donc, clairement, c'est pas... pour choper au lycée, ça t'aide pas. Enfin, parce que t'es dans un... C'est peut-être un cliché. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a vécu au lycée, c'était vraiment les petites meufs, femmes-enfants, qui avaient plein de copains et ça se passait hyper bien. Et en même temps, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait un énorme décalage entre notre cerveau et notre maturité et notre corps.
Bah, évidemment.
Voilà. Et ce qui fait que bah, t'attires des mecs qui ont, je sais pas, 22, 23, mais toi, t'en as 15, 16.
Dans ta tête, quoi.
C'est ça. Et rien que le rapport à la sexualité est totalement différent, la liberté de sortir et tout est différente aussi, et la maturité est différente.
Les expériences sont pas les mêmes.
Ouais. Exactement. Et mais bon, du coup, on a commencé à se mettre sur cette appli en se disant, on va rencontrer des gens. Enfin, on avait envie de draguer, quoi, chiner un peu, enfin, faire nos petites expériences. Puis bon, c'était derrière le, ça restait virtuel, même si on voulait un peu passer par moments. Puis il y a des moments où on a rencontré vraiment des gens, quoi.
Ok.
Elle plus que moi. Et donc, bref, les choses continuent comme ça. Et il se trouve que, ensuite, on part étudier toutes les deux à Paris. Et là, la première année d'études, on avait 18 ans, Lou existe encore sur Adopte un mec, toujours. Et, mais elle l'utilisait beaucoup plus que moi, quoi. Elle a passé le cap plus vite, voilà, moi j'étais un peu plus lente. Bref, je fais un bond dans le temps, moi j'utilise moi-même mes applis plus tard, Tinder. C'est pour ça que pour moi ça a toujours été un truc hyper banal en fait, depuis mes 16 ans je suis dessus.
Non, en fait, parce que tu l'as utilisé hyper jeune avant que ce soit trop à la mode finalement. Enfin...
Ouais, mais quand je l'ai utilisé c'était un peu vu comme un truc honteux, cringe, en mode...
Ouais, bah ça c'était les trucs pour les adultes, genre les parents. Je dis ouais, les c'est adultes ça. Parce que t'avais 16 piges, mais tu vois, un peu ça. Ouais. Ou alors, effectivement, pas encore démocratisé comme aujourd'hui, où en vrai, si t'es pas sur une app, quand t'es célib, c'est bizarre.
Ouais, ouais, grave. Et ce qui était rigolo, c'était qu'en parallèle, ma mère, elle venait de divorcer, et elle était sur Mythic, tu vois.
J'aurais adoré que tu me dises elle était sur Adopte un mec.
Alors, et là, elle nous a vus, gros malaise. Non, ça va. Heureusement, elle était sur Mythic, et je voyais toutes les semaines, il y avait des mails envoyés en mode le récap des nouveaux inscrits, et tu voyais des vieilles photos. Enfin, franchement, ça donnait trop envie, mais elle, en plus, elle était dans la tranche des quarantenaires, où ça y est, une femme, quand ça a plus de 45 ans, c'est...
C'est plus intéressant.
C'est ça. Donc elle avait des hommes qui avaient minimum 60 ans, voire 70, qu'on lui proposait. Parce que ceux qui ont 40 ans, ils vont plutôt vers les femmes qui ont 30 ans.
Et j'en profite, tout à l'heure tu disais famille très schéma classique, mais finalement tes parents ont fini par divorcer.
Ah oui, non, alors le début il est classique, mais
la fin...
mais ils ont explosé en plein vol les deux. Ouais, c'est clair, le début il est classique, mais il y a une petite crise de la quarantaine qui est passée par là. Puis il y en a un qui est parti vivre au Sénégal, qui s'est remarié, qui a eu 4 autres enfants. Puis l'autre, aujourd'hui, elle s'achète son petit appart à Paris, elle va à son cours de salsa et, ouais. Et elle fait toutes ses expériences, quoi. Donc, non, en vrai, ils se sont eux-mêmes déconstruits en vrai. On va dire ça comme ça. Mm-hmm. Ça aide peut-être, mais bref. Mais du coup, attends, je repars sur les applis de rencontre, je m'étais perdue. Putain, ça va être long. Hein.
Tu m'as dit, t'étais du coup, ta mère était sur Mythic, toi t'étais sur Tinder et ce genre d'app.
Ouais, c'est ça. Et bon, là, je commence à rencontrer des gens et tout. Et derrière ça aussi, je commence à avoir mes premières relations, mes trucs, mes machins, voilà. Des relations que j'appelle longues, c'est-à-dire 6 mois. Enfin,
ouais, ça compte
5 mois et demi. Ouais, c'est ça.
Franchement.
Non, mais ouais, ça a compté de ouf. Puis je commence à dater pas mal et tout, avec un rapport de plus en plus décomplexé à, bah, du coup, la rencontre, l'appli, et puis derrière, bah,
la sexualité aussi,
petit à petit. Ouais. Et là, je vais faire un stage au Brésil. Donc ça, c'est encore une autre histoire, sur un malentendu. Je postule par inadvertance dans une agence qui se trouve au Brésil, en fait. Et je m'en rends compte quand ils me répondent. Je suis sans... En fait, ouais, je lis de loin Sao Paulo, et je crois que dans ma tête, je me suis dit que c'était au Portugal, et c'est les seuls à me répondre. Et là, je fais une recherche sur Google Maps, et je me rends compte que c'est... Parce que je suis nulle en géographie. Et je me rends compte que c'est au Brésil. Et que le Brésil, il y a un océan. Enfin, c'est loin. Et bien sûr, moi, je parle pas portugais. Hein. Je parle anglais, italien, français... Mais voilà. Mmh. Et je me dis, bon, bah, vas-y, on y va. Donc, bon, là, je passe plein de détails. Et là, j'y vais. Je passe 3 mois là-bas. Et je commençais déjà à vouloir travailler sur un sujet lié aux applis de rencontre, parce que je devais écrire un mémoire, je devais faire une recherche. À ce moment-là, j'étais en diplôme supérieur d'art appliqué en design et création numérique. Et il fallait faire une recherche mémoire sur un sujet lié au design numérique qui nous touchait. Et on était en 2015-2016, donc ça devenait un peu à la mode, les applis de rencontre. Il y avait quelques sujets qui commençaient à être écrits dessus,
ouais.
Mais bon, pas à fond non plus. Donc j'étais là, ah, vas-y, je vais aller faire ça, ça me parle. J'y suis depuis grave longtemps, on va faire ça.
T'en as utilisé au Brésil ?
De ouf, oui.
Non, ok. Mais...
Oui, oui, bah alors Brésil, c'était Tinder à Bâle, principalement Tinder en fait. Et au départ, c'est drôle parce que moi j'ai utilisé Tinder pour aussi rencontrer des gens.
C'est ce que j'allais dire en fait, c'est un bon moyen aussi de juste faire des connaissances,
ouais,
les apps.
Ah oui, non, mais c'est ça. Et du coup, je mettais un peu dans ma description française, coucou, en fait, j'ai envie d'aller boire des verres. Enfin, non, mais c'est aussi parce que j'étais un peu en flip en arrivant au Brésil, parce qu'en fait, je connaissais personne. J'avais trouvé une coloc vraiment 2 semaines avant d'arriver, même pas. Et je parlais pas la langue, mais je me disais que l'anglais, ça allait passer. Et en fait, je me rappelle que j'avais pris une quinzaine de bouquins dans ma valise parce que je m'attendais vraiment à passer la plupart de mes soirées dans mon lit en train de potasser parce que j'avais pas de potes, quoi. Et que je me disais, à Paris, j'ai mis 3 ans à me faire des potes. Je vois pas pourquoi en 3 mois à São Paulo, tu vois, j'arriverais à me faire plus de potes.
Et la surprise.
Et là, tintin, plot twist. En fait, avec ma coloc, ça se passe hyper bien. Je suis aussi sur des apps de rencontre et je rencontre une collègue dans l'agence dans laquelle je bosse, incroyable, qui est grave sur Tinder aussi et sur Appen et tout. Et puis juste, on s'entend super bien, donc on fait plein de sorties ensemble. Et du coup, je date aussi pas mal au Brésil, je fais plein de trucs, c'est très drôle. Je me retrouve dans des situations particulièrement cocasses parce qu'il faut savoir aussi que, contrairement à Paris où t'as énormément de personnes qui ont à 20 ans déjà leur propre appartement, à São Paulo, ce n'est pas tout à fait le cas.
Le rapport au dating, et on sait que c'est pas du tout le même aussi. Enfin, je suppose au Brésil,
Ben moi, j'ai eu que des expériences assez ouvertes. Enfin, je sais pas comment dire ça.
Ouais, mais c'est ce que j'allais. En fait, tu vois, quand tu pécho quelqu'un, en France, t'as un peu plus le schéma de est-ce que du coup c'est un plan cul, est-ce qu'on va se mettre en couple, est-ce que machin. Alors que de ce que j'ai. J'avais regardé les vidéos de Camille Laurent au Brésil.
Ah, ouais.
Et elle en parlait un peu de ce rapport à la drague et aussi au sexe qui est assez différent par plein d'aspects, encore plus quand t'es en plus une petite touriste, donc...
Non, il faut savoir aussi qu'il y a le côté de la française, il y a un mot français qui existe dans la langue portugaise, c'est ménage à trois. Genre ménage à trois.
Allez.
Et je sais pas, il s'est resté un peu sur l'esthétique de la nouvelle vague ou l'esthétique même de. J'ai l'impression que c'est lié aux soirées un peu libertines de je sais pas, Marie-Antoinette, ou enfin il y a un peu ce délire là, mais
genre. C'est très spécifique.
Ouais. Ben non, okay. C'est ce que j'ai dans la tête, ouais. mais un peu, il y a un peu ce côté, waouh, française, ah là là, ok, hyper open. Sexuellement, ménage à trois et tout. Non, mais parfois, il y avait des mecs qui. Et ça, c'était ouf, il y avait des gars qui faisaient des relations à distance et tout. Et moi, j'ai eu plusieurs histoires de mecs qui avaient une meuf qui habitait les relations à distance au Brésil. C'est assez. Enfin, c'est souvent des vraies relations à distance à base de. On est à 5 heures d'autobus minimum. Et c'était, viens, en mode, on fait un truc ensemble, mais j'ai ma meuf là-bas, mais je sais pas quoi. Et après, des réflexions en mode, ouais, mais vous, les Français, vous avez la réputation de beaucoup vous tromper, non ? J'étais genre, est-ce que tu veux qu'on retourne la situation et qu'on parle de ton couple, du coup ? Parce que, voilà, ouais. Mais moi, là, c'est un petit tacle, alors qu'en vrai... Mais sur le côté des relations, oui, il y a le... Moi, c'est un truc que je trouve très drôle, et dont on a parlé avec mon copain actuel, qui est brésilien. C'est ce côté, t'as un rendez-vous officiel pour dire on est en couple. Et tant que t'as pas eu cette demande officielle,
oui, vous êtes pas en couple officiellement avec.
C'est ça. Là où en France, moi j'ai jamais vécu ce truc.
C'est un peu tacite en France, c'est genre à partir du moment où tu commences à vraiment voir la personne régulièrement et à faire d'autres choses que coucher avec.
Exactement.
C'est là où tu te dis, ah peut-être que.
À un moment donné, quand tu te vois. Ouais, c'est ça, quand tu te vois trois fois par semaine et que tu couches ensemble, mais que accessoirement tu vas au resto, tu fais plein d'autres trucs et que tu doutes bien que l'autre n'a pas le temps de dater quelqu'un d'autre, tu te dis, on est exclusif, je pense. et non, au Brésil, tu te dis vraiment, ok, là on est exclusif. Et attends, juste pour repartir sur toutes
et
ces
non,
histoires
mais du coup,
de...
le Brésil, les apps de rencontre et
le
vers
Brésil,
le sex-club.
Les apps de rencontre et vers le sex-club, on y revient. Donc Brésil, en mode gros stuff, trop bon, en fait, moment incroyable où je rencontre énormément de monde et où je m'émancipe de plein de choses, parce que clairement, quand tu vas dans un pays où personne te connaît, bah, tu peux décider un peu de qui tu veux être.
C'est pas les mêmes repères, etc. Là, tu construis tout, en fait.
Exactement. Et la petite étiquette, je trouve qu'on porte beaucoup d'étiquettes, et je sais pas, en France, à Paris, tu te mets toi-même des étiquettes sur le dos, les gens te perçoivent d'une certaine manière, ta famille qui te connaît depuis que t'es toute petite a une étiquette un peu sur ta tête, tes potes aussi. Mmh. Et donc là, c'était vraiment, on fait tout sauter, et je me suis rendu compte que je pouvais faire des trucs, mais même dans la vie quotidienne, quoi. Bah, apprendre une langue en 3 mois, au moins la base et quelques mots, comprendre les gens, interagir dans la ville, alors qu'à la base, zéro portugais. Et donc là, je reviens en France, petit coup de déprime, et je continue à bosser sur mon mémoire. Là, je suis en groupe avec un pote qui est toujours pote aujourd'hui, qui lui travaille plus sur le cerveau, sur le contrôle des choses par la pensée. Et qui est très fort en termes de... Il est juste très fort. Et moi, je continue à bosser sur ce sujet des applis de rencontre, et petit à petit, on commence à essayer de trouver des sujets communs entre le côté neurosciences, le côté relations amoureuses, d'autres travaillent sur des relations plus larges, amicales. Et là, on se dit... bon bah vas-y, on va travailler sur les relations humaines, designer de relations, qu'est-ce que ça veut dire le design relationnel. C'était même parler de la manière dont nos relations humaines et sociales peuvent être conditionnées ou non par tout ce qui concerne du design numérique, et que ce soit ton téléphone en fait.
Genre le swipe, ce genre de choses.
Ouais, ça peut être du swipe, mais ça peut être même le fait de parler sur WhatsApp ou sur Messenger, ça peut être... ça c'est très précis, mais... Et vraiment, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui conditionne un peu le fait que tu vas parler de telle personne, ou même pas la parole, mais par le toucher, par l'échange de contact, de regard, c'était super large. Nous, on commence à parler des relations amoureuses à distance, et à dire qu'on veut développer quelque chose sur les relations amoureuses à distance, en disant que la technologie actuelle qui existe, elle voit ses limites. T'as des interfaces d'écrit, de messages, audio, mais t'as pas ce côté de charnel, de toucher, de on va pas remplacer l'autre, mais ce que la technologie ne te permet pas, en tout cas en 2016, c'est de sentir la présence de l'autre d'un point de vue en fait presque physique. Et nos profs invalident grave notre projet en nous disant mais non, mais c'est pas un besoin, mais de quoi les amoureux à distance, ils ont pas besoin de se voir, ils ont pas dit ça exactement comme ça, mais il a dit ouais, moi ma femme elle part en voyage pendant 3 semaines, on a pas besoin de se voir et ça va. et nous on était là, bah c'est cool, ok. Et avec mon pote, on se dit, bah, on va faire un hackathon. En fait, on voit qu'il y a, y a un love hackathon organisé à Londres, un truc comme ça, un tout premier truc, où il parle de technologie un peu liée à l'amour. En parallèle, il y a un article écrit par le fondateur de Family, je crois, qui parle du besoin de créer des startups dans la sextech, qu'il faut financer ce milieu parce qu'il y a un avenir, il y a plein de choses à faire. Et on se dit, bah, on va faire un petit hackathon, quoi. Et donc, un truc, une petite idée, plutôt humble. et donc, on est là, ok, trop bien, on va tester ça. Ça va apporter de la consistance au projet, voilà. Et on commence à rencontrer des personnes, et je sais même plus comment c'est arrivé, mais on rencontre une meuf qui s'appelle Maëva Bottrell, et qui, elle, est super intéressée par le sujet, qui a un parcours totalement différent, qui bosse plus avec Startup Weekend. Okay. Et en fait, là, elle nous ramène encore, elle, d'autres personnes de son réseau et tout. On se retrouve, en fait, ok, on va faire ça à l'école 42, il y aura 69 personnes, et Dorcel sera notre sponsor principal.
69, c'était volontaire, je suppose.
Pas du tout. Je te jure, c'était... À chaque fois, je le dis, mais c'était vraiment pas volontaire. Et donc, ça se passe hyper bien, quoi. Enfin, vraiment... mais vraiment dans... Un peu dans le côté Startup Weekend et tout.
Il en ressort quoi, du coup, de ce week-end ?
Alors, il en ressort qu'il y a 3 projets. C'est un peu une compète. Enfin, c'est une compète. C'est... Au final, les gens proposent leurs projets... Et il y en a 3 qui sont sur le podium et qui obtiennent des prix. Le projet qui avait gagné à la première édition, c'était un chatbot qui s'appelle Peach. Qui existe toujours, je crois. Et c'est en fait pour permettre un peu plus l'éducation sexuelle auprès des adolescents. Okay. Donc tu vas parler à un chatbot, t'es ado, je sais pas, t'as 13 ans, tu te poses des questions sur je sais pas comment se masturber ou que sais-je. Mmh. Et donc tu poses ta question au chatbot qui va te répondre, va te rediriger vers des plateformes.
Ouais, vers des sources en fait aussi.
C'est ça. Et pour éviter qu'en fait t'ailles sur un site porno pour te renseigner.
Tu commences ta sexualité là-dessus.
Exactement. Mmh. Et la personne qui a mis ça en place, elle a continué en plus des années derrière. Enfin, c'est un peu. Je suis contente de ça parce que ça veut dire qu'on a quand même mis en place un truc qui a eu une longévité derrière. Et d'ailleurs, il y a une des personnes qui participait à la première édition qui s'appelle Marie, qui, elle, derrière, a créé sa marque de sextoy qui s'appelle Puissante. Et donc, suite à ce premier week-end où tout le monde se retrouve, et c'était vraiment ambiance bisounours à la fin, où tout le monde se tenait dans les bras, il y a des gens qui viennent nous dire merci, parce que c'était une safe place, on a grave plus parlé de sexualité, de plein de trucs, même échanger sur ce sujet avec des gens avec qui, normalement, t'échanges pas, te rendre compte que t'as des croyances qui sont pas forcément... que ouais.
Partagé.
Oui, c'est ça. Et surtout, c'était l'idée de détabouiser un peu ce sujet. Les startups explosaient, il y avait des hubs qui se créaient de tous les côtés, des startups week-end sur plein de sujets différents.
Oui, c'était très à la mode.
Ouais, c'est ça. Et on s'était dit, bah, il y a des startups pour tout, pourquoi il n'y aurait pas des startups pour le sexe, en fait, enfin,
mais... Bah, sachant qu'en plus, c'est une industrie, enfin, l'industrie du porno, mais plus élargie du sexe, c'est une industrie hyper importante.
C'est clair.
Et très précurseuse sur énormément de sujets.
Totalement. Ce qui est drôle, c'est que pour moi, l'industrie du porno, c'est vraiment une industrie qui a toujours, comme tu dis, été hyper précurseur et qui a toujours, hacké des technologies, détourné des usages,
ouais.
Détourné des technologies existantes. Et je trouve ça trop cool, en fait.
Mais j'en reviens à la place de la femme là-dedans. Enfin, tu vois, en termes de sexualité, représentation de la sexualité par le porno, mais aussi de manière générale, la sexualité des femmes, c'est plus récent. Commence à vraiment mettre en avant le plaisir féminin, peut-être avec ces mêmes injonctions dont on parlait au début, de maintenant il faut absolument avoir un orgasme sinon t'es nulle, mais il y a un peu ça, je te vois rire. Mais voilà, toi c'était quoi ton regard là-dessus et c'est quoi ton regard aussi aujourd'hui ?
Bah, ce qui est drôle, c'est que au moment de la première édition, je réalise pas tout de suite... qu'il peut y avoir une portée féministe, tu vois. Même si à ce moment-là, je suis un peu plus déconstruite sur certains sujets, moi, mon engagement politique et féministe, il est, je pense, quasi inexistant, où je m'en rends pas vraiment compte, quoi. Et surtout, je me sens pas légitime à être militante et à porter un message, voilà. Mais ça, on revient à la confiance et les femmes, genre,
mais c'est ce que tu penses toujours ?
Ouais. Non, aujourd'hui, je me sens un peu plus... en fait, pour moi, il faut faire et après se vanter. Et le fait d'avoir fait des choses avant, je me sens un peu plus légitime, tu vois.
Okay.
Mais je me sens pas comme une militante de fou qui va...
Non, mais tu peux être féministe sans être militante.
Oui, ça c'est vrai. Effectivement. Alors, et du coup, la place des femmes dans tout ça, c'est que, en fait, déjà, il y avait pas mal de meufs qui participaient au hackathon, donc ça, c'était grave cool. Après, je pense qu'il y a eu forcément des limites de... la première année, franchement, les projets étaient quand même assez diversifiés, assez égalitaires. Il y avait quand même plusieurs visions. Moi, je me rappelle d'un projet avec une fille qui tenait le projet. Elle m'avait fait tellement rire. Ils avaient pensé à une plateforme qui te permettait d'analyser tous les extraits de films porno que tu trouves sur Pornhub ou voilà, et que tu aimes, en fait, pour te faire une playlist sur mesure.
Avec
et,
juste les rushs que t'aimes bien.
Exactement. Et je me rappelle que dans le jury, quelqu'un avait dit « Ah, mais vous allez faire des éjaculateurs précoces avec ça !» Et nous on était là.
Ça veut éviter le scénario classique de il se ouais. passe ça, après ça, après ça, et puis après c'est fini.
Exactement. Enfin... Et en gros, et elle avait pitché ça, elle avait dit ouais, alors voilà, dans un film porno on a quoi ? On a le scénario au début, bon tout le monde s'en fout, on a, ouais, ensuite ça commence, mais.
Puis quand t'es une meuf pas... ou quand t'es un mec, peu importe, il y a vraiment pas tout qui t'intéresse à chaque fois. Et tu
ouais, veux, c'est clair. Et en fait, mais ça commence à ce moment-là à m'ouvrir un peu sur ah ouais, la place des femmes et tout, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ok, ah mais c'est vrai que c'est très hétéronormé ça. Ah c'est vrai que là on part vraiment du principe que c'est un mec qui va faire ça, ok
ouais.
Donc ça commence petit à petit à germer un peu et on fait une deuxième édition, franchement on y arrive quand même, mais on est un plus petit groupe à ce moment là et ça se passe toujours à l'école 42, il y a moins de meufs. Et tu vois que dans les projets, il y a des trucs beaucoup plus sexistes qui ressortent parce que, pas du tout d'égalité.
C'est pas votre challenger, en fait, pendant le pitch des idées
Non, pas trop. Et moins de diversité de personnes qui participent.
Ouais,
il y avait beaucoup plus de développeurs qui se faisaient kiffer sur des sujets. Attends, c'est un téléphone qui vibre, ça.
Je sais.
C'est un sextoy.
Qui s'est allumé tout seul.
Il est là en mode... Putain, en parlant de ça, en parlant de puissante, c'était drôle parce que la dernière fois que je suis partie en voyage, que je suis allée au Brésil, je suis revenue avec ma valise à mettre dans la soute.
Ouais.
Et j'attends pour passer le contrôle, la douane, machin. Et je suis avec ma valise et là, je vois ma valise qui vibre à fond et tout. Je comprends pas, je suis en mode merde, il y a un truc dedans. Mais... Et en fait, je me rappelle que je tiens ma valise et je dis à mon copain, mais attends, il y a un train qui passe en dessous là, il y a un souterrain, regarde, c'est ouf, on entend vibrer.
La classique, le sextoy qui s'est allumé dans la valise.
Bah ouais, sextoy qui s'est allumé dans la valise.
Au...
à la puissance maximale. Et c'est très fort quand c'est maximal. Je me retrouve à ouvrir ma valise, à l'éteindre en 2 secondes, à le remettre un peu. Je suis là, ah, oupsie. Non, non, c'est mon sextoy dans ma valise. mais voilà, aparté.
Tu penses que ton rapport à la sexualité hyper décomplexé aussi, et tout le travail que t'as fait dessus, ça influence ton rapport à la féminité ?
Oui, carrément. Hein. Oui, franchement. Bah oui. Alors j'essaie de trouver en quoi, mais je suis d'accord avec ça. Et c'est dingue que ce que tu viens de dire, parce que en fait, je me suis jamais dit que j'avais un rapport à la sexualité hyper décomplexé. Enfin,
mais pour moi, t'as un rapport à la sexualité tout à fait normal que tout le monde devrait avoir. Mais le fait est que quand t'en parles avec les gens, y a beaucoup de tabous encore aujourd'hui dessus. Et, ouais. Et je trouve que ça manque encore de naturel de juste... Moi, c'est un truc que j'adore faire en soirée, discuter, tu vois, sexualité avec des potes. Non pas que j'ai envie de connaître leurs pratiques, loin de là, mais j'étais la première à être contente de pouvoir... poser des questions directes, que ce soit à ma mère ou à des potes, en mode, bah là, il s'est passé ça, je sais pas trop si c'est normal ou pas.
Ouais.
Et d'avoir des réponses en fait, directes et d'en discuter et banaliser certaines choses. On en fait une montagne alors qu'en fait, c'est rien, et inversement.
Ouais, totalement, je suis d'accord avec ça. Et surtout parce qu'ensemble, on est plus fort. Mais parce que t'as besoin de plusieurs avis aussi pour te faire une idée, pour... Mais ouais, et ce rapport à la sexualité, pour moi, ça a toujours été un... Enfin, pas un jeu, mais un... Bah déjà, c'est une forme de liberté. C'est une émancipation, c'est une liberté. Et pour clore l'histoire du Sextech Lab, c'est aussi... quand je me suis lancée un peu là-dedans, il y avait des gens qui me disaient « Ah là là, mais c'est osé quand même, hein !» Et moi, j'étais là, bah... Et du coup, j'avais trop envie d'être provocatrice et tout, ouais. D'être là « Ouais, c'est ça, quoi, c'est osé !» Et en fait, je me suis rendu compte que... Mais il y a tellement beaucoup de gens hyper ouverts. J'ai connu, mais je pense que je peux compter sur les doigts de la main, les situations où les gens étaient choqués. Ça a dû arriver 2 fois, où j'ai dû rencontrer 2 mecs un peu énervés dans leur tête, qui se sont dit « Elle bosse dans les sextech, ça veut dire que... elle aime le sexe, quoi. » et qui ont commencé à me mettre l'étiquette de « Ah, ok, du coup, on va pouvoir aller la draguer tranquille, elle va rien dire. »
Mais c'est une grosse chaudasse, évidemment, vu qu'elle parle de sexe.
Ouais, exactement. En vrai, ça, ce qui est hyper rassurant, je trouve, c'est que ça m'est arrivé très peu de fois. Et ce qui est dommage, c'est que ça m'est arrivé. Ça ne devrait pas arriver. Et du coup, sur ce rapport à la sexualité, ouais, pour moi, c'est vraiment une forme de liberté, d'expérimentation, et c'est de la créativité aussi, tu vois.
Est-ce que, du coup, le fait d'être à l'aise aussi avec la sexualité, ça t'a aidé à être à l'aise avec ton corps ?
Je pense que ça y a contribué. Après, ça a mis quand même pas mal de temps. Et en vrai, tu sais, le paradoxe, c'est que moi, j'ai perdu ma virginité hyper tard. Enfin, non.
Moi ?
J'ai pas hyper tard.
Y a pas d'âge, mais par rapport à une certaine moyenne ou que sais-je... Un peu après, c'est tout.
Ouais, c'est ça.
Après, attention, perdre sa virginité, aujourd'hui, on entend ça dans le sens pénétration.
Ouais.
Pour information, vous commencez à faire du sexe d'autres façons, et on peut déjà dire que vous n'êtes plus vierge à ce moment-là. voilà.
Le touche-pipi quand vous avez 5 ans, non, je rigole.
Ouais, alors là, il n'y a pas de but, si ce n'est la découverte de l'autre. Mais à partir du moment où il y a une intention sexuelle, oui, clairement.
Non, mais c'est clair. Mais du coup, ce paradoxe où... en fait, j'ai un rapport hyper chill et ouvert avec la sexualité, alors que, pour autant, je me rappelle qu'au lycée, ça n'avait pas très bien commencé, quoi. Enfin, genre, c'était le stress de dire « Ah là là, elle a perdu sa virginité. Oh mon Dieu, moi aussi, je dois le faire. »
Ah, il y avait un peu la comparaison.
Mais clairement, mais comme dans les séries américaines, là. Enfin, vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup vécu ça, quoi. C'était un peu stressant parce que t'avais l'impression que le train partait et que toi, tu restais sur le quai et tu pouvais pas rentrer dans le wagon. Enfin, non, mais c'est... Et t'étais là, ah mon Dieu! Et en même temps, bon, bah, t'allais pas faire ça n'importe comment non plus, quoi. Enfin, c'est sacré, ça compte. Bon, ça dépend. Mais genre, ouais, en fait, ça dépend de la vision des choses.
Ça dépend!
Bon, moi, je me disais, bon, vas-y, c'est quand même une entrée, un truc, on va peut-être pas aller se rajouter un nouveau trauma en faisant n'importe quoi, ou juste, ouais, je sais pas, c'était...
Tu l'as fait avec ton amoureux de l'époque ?
Ouais, j'ai fait avec mon premier petit copain, avec qui je suis restée 5 mois et demi, c'était énorme.
Ah, la relation longue, la première.
C'était ma première relation longue. Et bref, mais tout ça pour dire que le rapport sexualité et corps, c'est arrivé, mais plus tardivement en fait, c'est arrivé, j'étais un peu plus chill avec mon corps. Je pense que le déclic, ça a été aussi des relations un peu plus longues derrière, copains qui te mettent à l'aise et saines. Ah, attends, le Brésil en vrai, ça m'a grave aidée. Déjà, je pouvais bouffer ce que je voulais, rapport à la minceur. Parce que c'est ça, en fait, le problème, moi, qui me complexait, c'était...
Ah ouais ?
Ah, mais depuis toujours, bah, déjà, quand t'es formée hyper vite au lycée, que t'as des seins, des fesses, des... alors qu'à côté, bah, y a plein de filles qui sont hyper minces et qui rentrent dans le petit jean parfait. Moi, j'ai déjà les fesses de Beyoncé, mais à ce moment-là, c'était pas valorisé autant, genre, mais... Mais ce truc aussi, je disais, tu voyages là-bas, t'as plus d'étiquette, tu peux être un peu qui tu veux.
Ouais.
Mais en fait, ça m'a mis vraiment à l'aise avec mon corps. Puis j'ai voulu tout goûter, j'ai tout bouffé. Mais par contre, oui, rapport aussi aux vêtements, où on est des grosses fashionistas à Paris. Hein, enfin, mais on se met une pression.
Il y a une pression de ouf sur les fringues. Ouais.
Quand je suis rentrée de cet échange, je suis arrivée sur le quai du métro et là j'ai vu des meufs qui faisaient deux tailles de moins. Enfin, j'étais là, ok, qui étaient. On dirait qu'elles se sont pas habillées, mais en fait, si, elles ont réfléchi pendant des heures et des heures. Et c'est un truc de. Je me suis pas maquillée, mais je me suis quand même maquillée. Ce rapport-là pendant ce voyage, bah franchement, ça m'a un peu calmée. Je me suis dit. En fait, c'est. Mais depuis le début dans cette conversation, c'est ça, hein, c'est d'autres modèles, des chemins alternatifs et surtout découvrir que tu peux faire les choses différemment en fait et qu'il n'y a pas qu'une manière de voir les choses et qu'une manière de faire. Et voilà en fait. Et puis j'ai arrêté de faire des régimes, de faire...
T'en faisais, t'en as fait pendant que t'étais ado ?
Ouais, franchement, ouais. Des trucs de... Après, j'ai fait un truc qui a quand même été utile, parce que quand je suis arrivée à Paris la première année, j'ai pris plus de 10 kilos sur l'année. Et parce que tu quittes la maison des parents...
Oui, non, mais tu te mets à vivre seule, au début, c'est chaotique.
Ouais, c'est ça.
Surtout quand t'es très jeune, enfin...
Du coup, fallait trouver des habitudes saines, c'était ouais. Plutôt ça. Mais moi, j'ai jamais fait des régimes où il faut que tu t'affames, faut pas que tu bouffes, il faut... C'était toujours trouver un peu des habitudes saines, mais c'est plus que la bouffe, elle me préoccupait quand même pas mal, alors qu'aujourd'hui, c'est bon, enfin, c'est...
Oui, tu manges ce que t'as envie de manger, point.
Ouais, exactement. Et si là, j'ai envie de me bouffer un gros truc de chocolat parce que ça va pas et j'ai envie de ça, je le mange et puis personne va m'embêter. Et puis aujourd'hui, j'ai aussi le partenaire qui va pas du tout me culpabiliser, parce que ce serait horrible s'il le faisait en plus, et qui... Enfin, c'est pas grâce à lui que je me sens bien dans mon corps, mais on va dire que...
Non, mais t'aimes comme t'es, quoi.
Ouais, voilà.
C'est simple, mais en même temps, c'est pas si évident, quoi, donc...
Et franchement, pour être bien dans son corps, bah, ça aide pas mal d'avoir un partenaire qui t'aime comme t'es et qui trouve que tout ça c'est trop bien et qui t'encourage, quoi.
Tu parlais tout à l'heure du fait que t'étais pas militante, t'as parlé aussi d'art.
Ouais.
Et pour moi, vraiment, un peu la synthèse de cette discussion, tu me vois venir, c'est que tu as fait un magnifique vide-loche.
Ah, ouais.
On en vient à ça. Moi, je trouve que ça représente un petit peu tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Le vide-loche étant un magnifique vide-poche que tu as fait à la poterie, mais en forme de sein. Ou de sein creusé.
Ouais. Ou un cendrier, c'est...
Le cendrier ça, aussi, oui. Ça dépend. Tout à fait. Ça dépend de l'usage, si vous... Voilà.
Ouais, non, si c'est.
Parce que c'est drôle, tu vois, que t'en fasses derrière à la poterie, en fait, tu commences à représenter des seins, des vulves, ce genre de choses, sans aucun. Enfin, c'est vraiment ce qui te vient, quoi.
Mm-mm. Non, mais c'est clair, bah attends, on va reparler du Brésilien coup alors. Parce qu'en fait, ça c'est lié au carnaval, au premier carnaval où je suis allée.
La couronne vulve.
La couronne alors, clitoris.
Clitoris. Pardon, c'est la petite parenthèse, mais parce que c'est la première photo que j'ai vue de toi.
Ah ouais ?
Que Marion, notre amie commune, d'ailleurs, elle a fait un épisode de Bon Sang, je vous invite à l'écouter. Mais que Marion m'a montré toi.
Et bah voilà, tout est là. Et non, mais c'est trop ça, c'est qu'en fait, j'avais jamais assisté au carnaval de São Paulo. Mm-hmm. Donc en 2019, avec mon copain, on se dit, ah vas-y. On va au carnaval et tout, ok. C'est sérieux quoi, il faut faire un costume et tout. Et il se trouve qu'à ce moment-là, bah, j'ai du temps. et surtout, je suis un peu en phase de freelance, réflexion un peu sur ce que je vais faire, voilà. Et puis le Sex Tech Lab, ça se termine doucement et j'ai envie de faire. De faire un projet un peu créatif qui parle de sexualité. Enfin, de toute façon, la sexualité, c'est mon mojo, donc ça me drive un peu. Et j'étais là, ok, vas-y. Et là, en fait, je sais pas, ça me fait marrer. J'ai l'idée de faire une couronne avec plein de clitoris. Et comme c'est le carnaval, je mets du glitter dessus. Et je fais plein de clitos en pâte fimo.
D'ailleurs,
pailleté. Ouais. Et Marion m'a aidée, elle est venue un jour, d'ailleurs. On fait des clitos ensemble, je les colle sur ma petite couronne et tout. Je suis trop refaite, je suis là, ah, oh, trop bien. Et ah oui, et surtout, attends, on est en 2019. Mais c'est parce que depuis 2018 il commençait à y avoir
des représentations du clitoris.
Exactement. Et bah, gang du clito, pas très loin de chez moi, il y avait plein de comment dire, pastilles collées sur le sol avec des clitos. Enfin, c'était un peu.
Et bah, on commençait à le montrer plus et avant que ça nous rejoigne les livres d'éducation sexuelle et
exactement.
D'anatomie, quoi.
Parce que le premier clito dans un livre d'éducation sexuelle, c'est 2019, je crois.
Ouais,
donc c'était pareil. Bah, on suit un peu les tendances et. Et voilà, et donc moi j'y vais, je me dis bah génial, je vais faire ça. Là j'ai des gens qui me disent c'est pas un peu osé de faire ça, enfin franchement c'est dangereux.
Mais est-ce que les gens ils ont reconnu ce que c'était? C'est plus ça la question en vrai, enfin tu
non,
vois.
Non mais alors déjà il y en a très peu,
Bah ouais.
et même et les, ceux qui ont reconnu ils étaient grave cool. Et déjà en France il y a quand même des gens qui me disent, et puis qui me parlent du Brésil à base de non mais ils sont machos là-bas, j'étais là mais ah. Alors ok, mais regarde-toi en fait. Et puis même moi j'étais là mais mec c'est carnaval, tu comprends pas en fait, c'est la fête, c'est... Et donc voilà, je pars avec mes petites couronnes de glitteris. Et il se trouve que ça a eu beaucoup de succès.
Genre. C'est trop bien.
Et d'ailleurs, j'ai rencontré sur place ma sœur Glitoris. Enfin, Clitoris, pas Glitoris. Mais quoi qu'elle avait du glitter aussi.
Une
et on s'est retrouvés.
Elle s'était fait avec des clitos aussi.
Ouais, une meuf, elle avait son clito découpé comme ça sur sa tête, dans sa tête. Elle avait une loupe. Et en fait, elle disait aux gens.
Cherche.
Ouais, bah ça, c'est pour les gens qui savent pas où c'est. Tiens, je te le donne, ça t'aidera à le trouver. Suite à ça, j'ai des potes qui trouvent que c'est trop cool et qu'il faut continuer à faire ça.
Il bah, y a bien des mecs qui se déguisent, et des mecs. Et des meufs d'ailleurs qui se déguisent en tub. Enfin, en
ah oui,
moment,
oui.
Voilà,
ouais, et d'ailleurs, je fais une recherche sur Google Images à ce moment-là. Alors, des déguisements tub, t'en as énormément.
Ouais, mais
des déguisements vulves, il n'y a rien en fait. Enfin, en fait, c'est ça, tu vois, l'iconographie, elle est super pauvre.
Oui, alors qu'aujourd'hui, il y a des expositions à Londres. Là, j'ai vu qu'elle était à Lisbonne cet été. Enfin,
ouais.
En tout cas, elle allait ouvrir là pour septembre. Des expositions sur justement des représentations de vulves de plus en plus, du clitoris, de toutes les. Variété de vulves aussi, puisque
ouais.
Sachez-le, il n'y a pas qu'un petit modèle.
Exactement.
Enfin voilà, d'avoir un peu de représentation là-dessus, se dire, ça n'a rien de choquant, pas plus choquant que quand on voit plein de tubs, enfin, et qu'on dessine des tubs sur nos tables à l'école quand on s'ennuie, quoi, enfin...
Putain, c'est clair. Ouais, c'est vrai.
C'était ça, franchement.
Moi,
c'est le premier truc que tu fais quand il y a de la neige, que t'es ado et que tu vois un pare-brise, tu fais une tub. Et même pas que ado, il y en a que je connais qui continuent.
Oui, moi je fais tout le temps.
Et tu vois, et tu dis, ouais, ok, bah, c'est facile parce que c'est le truc qui sort, mais pourquoi tu fais pas une vulve? Enfin, en vrai, ça a la même signification.
Ouais, totalement. Hein. Mais moi, j'ai commencé à dessiner des vulves trop tard, d'ailleurs. Mais c'est vrai. C'est ça, c'est en fait, en partant de l'iconographie, je me dis, mais on est sous-représenté, quoi. Enfin,
ouais.
Moi, un truc qui m'a fait marrer, c'était de me dire, on va hacker l'espace public, on va se réapproprier l'espace public avec nos vulves et nos clitos. Et surtout, on va aller en mettre partout dans l'espace public, parce que pour moi, l'espace public, il est vachement lié au pénis. Enfin, t'as plein de formes hyper... j'ai oublié l'autre terme hyper...
phallique.
Merci. Il y a plein de formes phalliques partout où tu passes. Et ce qui, pour moi, constitue un conditionnement aussi.
Bien sûr.
Et je me suis dit, mais ce serait drôle de ramener un peu plus. On a des formes phalliques partout, pourquoi pas ramener un peu plus de formes... clitorique, je sais
ouais,
pas, mais...
Ouais, enfin, même de vulve, enfin, plus ovale, plus ronde.
J'ai aussi fait des clitos en poterie, avec des
évidemment,
trucs qui dégoulinent, avec des... Et je sais pas comment je vais continuer ça et mettre ça en place et tout, mais je me dis que c'est hyper important de juste montrer des tétons, des vulves, des clitos, des... et puis n'importe quelle chose liée au corps féminin, parce que... Parce qu'on ne le montre pas assez, quoi. Et avec un saupoudrement de paillettes.
Paillettes,
parce que c'est carnaval et c'est la fête. Parce que la vie est une fête. Bon, voilà.
Ça veut dire quoi pour toi, être une femme, avec tout ce que tu m'as raconté?
Waouh. C'est hyper dur de répondre à ta question, je réfléchis, j'essaie de pas me bloquer et tout.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition, de toute façon, et c'est une question un peu piège, parce que, ça je le répète à chaque épisode, mais je la biaise en disant une femme et pas des femmes. Justement parce qu'on a tendance à voilà, nous mettre un peu toutes sous la même définition. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir vos points de vue aussi sur ce que c'est en fait être une femme.
Pour moi, être une femme... Mais en fait, ce que je vais définir, c'est même pas tant lié à être une femme, c'est être un être humain dans notre société, tu vois.
Ouais.
C'est
être un être humain en fait.
C'est... Ouais, c'est...
Et j'ai la toute dernière question du podcast.
Ouais.
Si là, tout de suite, t'avais un bouton devant toi qui peut appliquer un pouvoir, une décision à absolument toutes les femmes dans le monde, ce serait quoi? Tu prendrais quoi comme décision?
J'allais dire une connerie. J'ai une réponse connerie et une réponse sérieuse. La réponse sérieuse, ce serait l'égalité, au minimum salarial. Non, mais l'égalité, vraiment l'égalité. Partage des tâches, et égalité de charge mentale, émotionnelle, égalité du travail, égalité dans la vie, quoi. Et l'autre, ce serait... Voilà, non, je sais. Ce serait que les hommes aient leurs règles. Genre, au moins une fois dans leur vie. Et je suis sûre qu'après ça, on aurait un congé menstruel et on aurait plein de choses.
Bah, merci beaucoup, Lucie.
Mais de rien.
Merci d'avoir écouté ou peut-être même réécouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner au Cloque Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Vous pouvez également partager autour de vous le podcast, c'est vraiment ça qui va aider à le faire connaître et ça soutient mon travail. Et puis je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux @cloqueclub sur Instagram, Threads et TikTok où je partage plein d'autres trucs, notamment un atelier d'écriture qui va être lancé là tout début février. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye !